7h29 minutes, presque 7h30 minutes. Alors, on est pile poil sur notre heure habituelle pour parler avec Martin Thériault. Je regardais sur la messagerie texte. Je fais des salutations à tout le monde qui est là aussi, notamment à Elisabeth qui a hâte d'entendre parler Martin en disant qu'elle a besoin de sa dose pour une droguée du hockey. Martin, alors, tes services sont requis pour les prochaines minutes, Monsieur Thériault.
Écoute, ben, tout d'abord, bon matin, Jasmin. Écoute, on va remplir notre mission le mieux possible. Du hockey au mois de juillet, on est toujours partant, il n'y a pas de problème.
Ben oui, on s'en est parlé hier, Martin. C'est le camp estival de l'équipe Canada, mais aussi du championnat mondial junior. On va parler de Jaden Struble ensuite, mais je suis curieux d'abord de savoir. En fait, je te pose la question. C'est certain que tu l'as vu. As-tu vu la belle performance d'Atos Koivu hier avec la Finlande à ce camp-là d'été? C'est peut-être pas grand-chose, mais il a marqué 2 buts, je pense, hier avec la Finlande.
Oui, absolument. Atos Koivu qui a connu un excellent match. En fait, avait été, selon moi, le deuxième meilleur joueur de la Finlande dans la première rencontre. Et là, vraiment, ça a été lui qui a été le meilleur hier. Et évidemment, Atos Koivu, la grosse force qu'il a du côté de la Finlande, c'est son lancer des poignets, son lancer frappé également. Son tir sur réception. Puis les 2 buts sont arrivés de la même façon. Un tir sur réception à gauche et par la suite... un peu la même chose, là, justement, en troisième période. Et je pense qu'encore une fois, ce qui a retenu un peu l'attention par rapport à Atos Koivu, qui affrontait LJ Mooney, plus tranquille de son côté, je dirais. Là. Mais Atos Koivu, ce qu'on a pu voir, c'est que, bon, oui, il a été capable de marquer, mais spécialement en deuxième, en troisième période, là, l'intensité, encore une fois, a ressorti. Tu vois que là, en tant que joueur de 19 ans, lorsqu'il affronte des joueurs à peu près du même gabarit, mais il est capable de s'en sortir, chose qu'on n'a pas nécessairement vu, notamment dans la Liga finlandaise et avec dans les camps de perfectionnement des Canadiens de Montréal, souvent le côté physique faisait défaut parce qu'il était tout simplement plus petit, il n'avait pas encore ajouté nécessairement de gabarit. Et là, on commence à voir qu'il prend de plus en plus ses aises et lorsque ça arrive, ben il est capable de créer de belles choses. On parle de son but, de son deuxième but, là, mais l'avantage numérique est survenu grâce à lui. C'est lui qui a fourni un bel effort, a forcé l'adversaire à le faire trébucher, tout ça. Donc vraiment, une belle prestation de Atos Koivu, mais je le répète en même temps, c'est un peu facile, c'est pas une très grande équipe la Finlande dans ce tournoi estival-là. Donc, il y a amplement de temps de jeu aussi. Là.
Ouais, mais ne boudons pas notre plaisir quand même, Martin. Soulignons quand même cette belle performance de Atos Koivu, même si, comme tu le dis, là, ça semble pas être peut-être la plus grande cuvée de la Finlande, ce qui n'empêchera pas qu'ils seront quand même à surveiller au prochain championnat mondial junior. On garde un œil sur ce camp-là qui est disputé toute la semaine à Minneapolis dans le Minnesota. C'est là où sera disputé d'ailleurs le championnat mondial junior à Noël 2025-2026. Jaden Struble hier a signé avec le Canadien de Montréal. Martin, c'est une nouvelle qui est tombée en fin d'émission pour nous là, vers 9h hier matin. Un contrat de 2 ans à 1,41 million de dollars. J'en ai parlé un peu avec Alexis. Je pense que c'est ça qui a attiré ton attention, toi aussi. C'est le fait que Arber Jacky ait eu à peu près le même contrat il y a un an. Qu'est-ce que tu en as gardé comme lien à faire peut-être entre ces deux contrats-là?
Ben, en fait, ben ça, tu l'as bien mentionné, Jasmin. Bon, la nouvelle, là, quand même, date d'environ 24 heures. Donc, tu sais, j'étirerai pas nécessairement ce que les autres émissions BPM Sport ont fait. Mais moi, ce qui a attiré mon attention, et encore une fois, lorsqu'on parle de Kent Hughes, avec son passé d'ancien agent de joueur qui prend des décisions, là, tu sais, il y a clairement pas de hasard ici, là. Encore une fois, ça a une énorme importance. L'an dernier, donne un contrat de 1,3 million de dollars à Arber Jacky sur 2 ans. Ça prenait 1,48% de la masse salariale. On s'entend, je t'ai pas donné 5 ou 10%, là. Je t'ai donné un chiffre quand même extrêmement précis.
Ouais.
On se retrouve un an plus tard, Jaden Struble obtient 1 412 500 dollars. Je précise vraiment le montant.
Et là, tu vas me dire que c'est 1,48%, c'est ça?
Exactement. C'est pile poil. Et chez les joueurs, tu le sais, on aime se comparer. On aime dire, par exemple, « Ouais, j'ai eu, par exemple, 0,5% de moins qu'un autre joueur. » Tu peux être un peu déçu, des choses comme ça. Ben là, dans le cas de Struble et Jacky, qui honnêtement, souvent, un remplaçait l'autre dans la formation, sont un peu à la même place, c'est un peu la même compétition entre les deux joueurs. Ben là, clairement, tu peux dire « Ben écoutez, vous n'avez pas vraiment à rechigner. » vous avez le même montant au prorata, là, si on prend justement la hausse du plafond salarial, mais... la valeur est la même. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant et ça empêche justement le. Ça permet tout le monde d'être heureux au moins à ce niveau-là.
T'sais. Ben oui, mais c'est super intéressant à entendre. Puis ça montre que nous, de l'extérieur, amateurs, médias, on parle beaucoup en termes de montant d'argent, mais ça montre qu'à l'intérieur des portes closes dans les négociations, on parle beaucoup plus peut-être qu'en pourcentage de la masse salariale qu'en montant d'argent comme tel, parce que l'observation que tu fais est super intéressante sur le fameux 1,48% de la masse salariale. Une masse salariale, on le sait, qui est appelée à monter. Alors forcément, je pense que dans les prochaines années, on va être nous-mêmes appelés à adapter notre manière avec laquelle on évalue les montants d'argent qui sont donnés et à changer un peu notre échelle de valeur, là, si ça rappelle des mathématiques plus ou moins avancées à certaines personnes ce matin. On pourra pas voir le même montant d'argent de la même manière, sachant que la masse salariale va monter jusqu'à 115 millions d'ici quoi, 2 ans, là?
Ouais, exactement, mais Jasmin, je pense que c'est une nouvelle façon de calculer. C'est un petit peu normal. Le plafond salarial augmente tellement que, tu sais, dans 2 ou 3 ans, on va peut-être être dans une autre stratosphère complètement. Puis, tu sais, ben, il faut quand même penser aux joueurs et aux agents là-dedans. On veut être payé. On ne veut pas avoir un joueur qui obtient, par exemple, un contrat de 6 ans, ben, ça peut arriver quand même, là, mais qui se retrouve avec avoir une valeur inférieure et qui est payé en deçà de sa valeur pendant peut-être 3 ou 4 ans. Donc là, peut-être que le pourcentage de la masse salariale sert un petit peu, mais je reviens encore à Kent Hughes, c'est là que je trouve que c'est quand même assez brillant, c'est de faire en sorte, tu sais, quand tu parles là, de vouloir faire en sorte que les joueurs soient heureux, qu'on soit prêt à se donner sur la patinoire, qu'on soit prêt à exclure, même si ça semble super anodin, et ça l'est quand même, là, mais le fait de voir justement une distraction de moins, ça fait en sorte que là, tout le monde est un peu plus soudé. Tu sais, regarde un peu qu'est-ce qu'on a fait avec Juraj Slafkovský, comme quoi on n'a pas pris de contrat plus élevé que Nick Suzuki, parce que c'est le capitaine, parce que c'est le joueur qui est très important dans cette équipe-là.
Regarde
là,
Cole Caulfield qui avait signé juste en dessous de Nick Suzuki en termes de montant aussi.
Exactement. Donc, tu sais, t'en as vraiment plusieurs comme ça. Ça fait boule de neige, ça fait des petits. Puis, ben, à quelque part, tu sais, c'est... Là, présentement, peut-être qu'on le sent moins parce que les Canadiens ne sont pas encore prêts vraiment à gagner une Coupe Stanley. Mais lorsque ça va être le cas et que t'as Kent Hughes qui a été capable d'aller chercher peut-être quelques milliers de dollars de moins ou tout simplement de rendre tout le monde heureux, ben, tu sais, au-delà de tout ce qui est... toutes les transactions qu'il fait, là, moi, je trouve que l'un des plus gros impacts positifs de Kent Hughes, c'est de s'assurer que tout le monde est très heureux. Ce qui, honnêtement, là, avant son arrivée, là, était vraiment pas le cas.
Ouais, mmh. C'est une gestion de la masse salariale qui est super intéressante de la part de Kent Hughes. On sait que Jaden Struble serait allé en arbitrage si on n'avait pas trouvé de terrain d'entente. Là, on a trouvé un terrain d'entente. Tant mieux, il signe pour 2 ans. Un qui va aller possiblement en arbitrage, à moins que ça se règle dans les prochaines heures, c'est le défenseur Dylan Sandberg avec les Jets de Winnipeg. Ça va être sur un contrat d'un an qu'il va aller en arbitrage. La date prévue est demain. Et ce qui est intéressant dans cette histoire-là, Martin, c'est que la différence entre l'offre des Jets et la demande de Dylan Sandberg est immense. On est habitué de voir parfois bon quelques centaines de milliers de dollars, 1 million, même bon parfois 2 millions de différence au niveau de la demande. Là, de ce qu'on comprend, Dylan Sandberg demanderait 6 millions de dollars, alors que les Jets lui en offriraient 2,5 millions. Alors là, écoute, on n'est pas sur la même page du tout, là.
Ouais, mais je pense qu'il faut comprendre un peu le jeu des négociations par rapport à l'arbitrage. Bon, évidemment, comment ça fonctionne, c'est que tu te présentes devant l'arbitre, et là, ben, tu tranches soit en faveur de l'équipe, soit en faveur du joueur, ou tu peux aller carrément la poire en deux. Et l'élément d'aller entre les deux est très important ici. Tu sais, est-ce que les Jets de Winnipeg pensent vraiment que Dylan Sandberg vaut simplement 2,5 millions de dollars? Je pense pas. Je pense qu'à un moment donné, on est capable de réaliser à quel point il est important. Je regardais un peu les rumeurs également. Moi, j'étais un peu surpris qu'on se soit retrouvé à dévoiler les montants parce que semble-t-il que le point de vue était quand même bon, qu'on était prêt à s'entendre à long terme du côté d'un Dylan Sandberg et tout ça. Là, évidemment, ce qui peut frapper un peu aux yeux, c'est OK, mais pourquoi Sandberg, un gars qui a obtenu 20 points en 60 matchs, est capable de veut demander un montant de 6 millions de dollars par saison?
Les défenseurs défensifs, il y a une demande aussi pour ça, mais c'est une manière de les évaluer qui est différente de celle avec laquelle on évalue d'autres défenseurs, là.
Ouais, exactement. Puis tu sais, je pense que tu sais, tu dois regarder un petit peu les montants. Je m'amusais à regarder un peu. Puis tu sais, les différents sites spécialisés pour les statistiques avancées, pour les projections de contrat, c'est drôle, hein. Mais en ce moment, à Dylan Sandberg, on lui accorde une valeur de 5 200 000 $ sur 6 ans, selon Cap Wages, notamment un site qui se spécialise là-dedans. Et c'est justement normal. Bon, les gens le connaissent peut-être un peu moins, Dylan Sandberg, qui joue dans l'Ouest. Là, mais c'est probablement l'un des meilleurs joueurs défenseurs défensifs de la Ligue, qui est à 26 ans. Il bloque des tirs, il est capable de frapper, c'est pas Robert Jacquet, mais il est quand même excellent là-dedans. Très, très bon défensivement, couvre bien son territoire, a fait un excellent travail. Il n'a pas obtenu un différentiel de plus 34 pour rien. Et tu sais, je peux faire je regardais les comparatifs qu'on donnait, le contrat d'Adam Pellick qui est de 5 750 000 $ pour 8 ans, ça a été quand même signé en 2021, donc tu sais, ça date un peu, mais j'ai pas besoin d'aller très loin. Regardez un Kaelen Goulet à Montréal qui gagne 5 500 000 $, qui a pas une tonne de points non plus. Et est-ce que quelqu'un à Montréal pourrait dire que Kaelen Goulet est surpayé? Je pense que tout le monde s'entend dire que non, même s'il apporte pas les points, il est là parce qu'il bloque des tirs, parce qu'il est robuste, parce qu'il est un élément très important à un défenseur très offensif. Donc, je pense que ça explique un peu. Et c'est ça, je pense, ce que je veux illustrer. Donc, on voit 6 millions. Ça semble élevé du côté de Sandberg, mais sa valeur est vraiment là. Et honnêtement, si j'étais les Jets, là, je considérais probablement de m'entendre à long terme, peut-être même légèrement au-delà d'un 6 millions. Peut-être un 6 millions 200 ou 300 000 $ parce que là, en ce moment, oui, ça peut sembler de l'argent, mais on l'a mentionné tout à l'heure avec la hausse du plafond salarial et le jeu qu'il présente, Dylan Sandberg, je le répète, là, c'est l'un des très bons défenseurs défensifs. Ce contrat-là peut sembler cher à première vue, mais ça peut devenir une aubaine là, d'ici 3-4 ans, et d'autant plus que pour une rare fois, t'as un joueur qui veut demeurer à Winnipeg à long terme.
T'sais. Ouais, ben justement, la manière avec laquelle les prochaines années vont se passer, s'il veut rester à Winnipeg, ça va être intéressant à suivre, parce que le processus d'arbitrage, tout le monde le sait, ça laisse souvent des traces au niveau de la relation entre le joueur et l'équipe. Je me rappelle cette année à BPM Sport d'avoir entendu Pierre Dorion notamment en parler dans l'un de ses segments. Là, ça m'avait marqué un peu, mais avait raconté un peu l'insight, si tu me permets l'expression, de comment ça se passe au niveau de l'arbitrage. Et il y a un côté où tu veux pas non plus trop froisser ton joueur parce que tu veux qu'il se sente encore valorisé, mais t'essaies de l'avoir à un salaire plus bas que ce que lui croit. Alors souvent, ce genre de truc-là, parfois, on peut mettre ça de côté ensuite et signer à long terme, mais il y a bien souvent des cas aussi où, dans les mois qui suivent, 2 ans maximum, l'association entre l'équipe et le joueur se termine, là.
Ouais, puis je pense que c'est pourquoi il faut surveiller quand même un Dylan Sandberg dans ce dossier-là. Supposons qu'on se retrouve en arbitrage. Écoute, les ceux qui nous ont écoutés peut-être il y a quelques semaines, j'ai préparé justement une chronique par rapport à des anciennes histoires là, d'arbitrage qui se sont mal déroulées. Les partisans des Canadiens peuvent se souvenir de Piquet Souban. Piquet Souban s'était amené en arbitrage les fameuses
l'année
images,
avant de signer son gros contrat, il me semble.
Ouais, exactement. Donc, tu sais, on se rappelle toujours tous des images de Piqué Souban et de Marc Bergevin dans la petite salle avec une caméra qui essaie d'épier qu'est-ce qui se passe et tout ça. On sort de là, et tu l'as bien mentionné, là, Jasmin, quelques minutes ou quelques heures à peine après, paf, gros contrat de 8 ans, 9 millions de dollars par année, mais les relations n'ont jamais été les mêmes avec Piqué Souban par la suite. On a toujours senti qu'il était un petit peu plus dévalorisé par rapport aux autres. Il y avait toujours des rumeurs de transactions qui finalement étaient fondées, et on l'a bien vu, là, quelques années plus tard, a été échangé contre Shea Weber un pour un. Donc, dans le cas de Sandberg, je viens d'en parler, là, je pense que, tu sais, sa valeur est là. Tu regardes les statistiques avancées, les Jets de Winnipeg sont clairement meilleurs dans toutes les espèces de statistiques, que ce soit possession de rondelle, que ce soit la valeur de ton équipe lorsque ton joueur est sur la patinoire, des éléments comme ça. Si Dylan Sandberg, qui en passant s'il signe un contrat d'un an, se retrouve joueur autonome sans compensation en 2026, si ça arrive, et si justement il pouvait y avoir des relations qui se sont effritées, moi je vous dirais surveiller ce nom-là. Il y a des gars qui ont signé quand même des gros contrats cette année en ayant à peu près le même style. Je pense notamment à un Vladislav Gavrikov. C'est le genre de gars, Dylan Sandberg, qui, même s'il ne fait pas 60 points par année, qui pourrait aller faire sauter la banque parce que il est très important. C'est un gars vraiment unidimensionnel défensif que tu peux placer avec des défenseurs plus plus offensif. Là. Donc là, vraiment, c'est un gars surveillé.
Oui, il y a un excellent d'excellentes statistiques aussi au niveau défensif. Bon, je sais que l'affiche plus et moins, on en pense qu'on en pense, mais plus 34, c'est quand même digne de mention. T'as beau dire qu'il faut en prendre et en laisser avec le différentiel, quand t'es plus 34, ben ça montre quand même que tu fais de bonnes choses sur la patinoire. Je me rappelle, il y a 2 ans, lorsque j'avais remplacé avec BPM, et je me rappelle de lui avoir parlé aussi pour Hockey le magazine, mais je sais pas si tu le sais, Martin, il y a un bureau d'avocats, et je sais pas si les amateurs le savent, il y a un bureau d'avocats à Montréal qui s'appelle BCF Avocats, où il y a l'un des avocats, Maître André Lepage, qui travaille avec un paquet d'équipes de la Ligue nationale sur les causes en arbitrage pour représenter les équipes. Alors, il y a beaucoup de ce travail-là qui se fait dans les coulisses et qui se fait à Montréal avec un avocat québécois qui a fait son chemin dans le hockey, qui a étudié dans les années 90 avec Julien Brisebois notamment. Il s'occupe pas avec toutes les équipes, mais il travaille avec beaucoup d'équipes de la Ligue nationale sur les cas qu'ils ont en arbitrage. Évidemment, il n'y en a pas non plus une tonne à chaque année des cas en arbitrage, mais il y a beaucoup de ce côté-là qui se fait à Montréal avec ce bureau d'avocats-là.
Ouais, mais sauf erreur, l'ancien patron de BPM Sport, Alexandre Panton, avant sa carrière dans les médias, c'est ce qu'il faisait également. Il travaillait pour un cabinet d'avocats qui, justement, gérait des cas d'arbitrage.
Ah ouais, donc, c'est possible, ouais, c'est... je savais pas.
Ouais, donc tu sais c'est très commun. Disons qu'au Québec on a une belle banque de passionnés.
On a surtout une belle expertise aussi sur ce niveau-là parce que c'est quand même une expertise qui est assez précise là, dans ce genre de cas-là. Là.
Ouais, exactement. Puis tu sais au niveau historique aussi, on a toujours été capable d'avoir des hommes de hockey pas mal au Québec et tout ça là, si tu remontes à il y a une cinquantaine d'années. Donc on dirait que traditionnellement tu es capable d'avoir des gars un peu plus de droite. Tu as parlé de Julien Brisebois, c'en est un autre excellent exemple aussi. Là.
Ben ouais, tout à fait. Maître André Lepage qui est un homme passionnant à entendre que j'avais eu en entrevue à BPM il y a 2 ans mais qui avait tout expliqué le processus avec lequel ces causes en arbitrage se font et c'est super intéressant de l'entendre. Ça se trouve peut-être encore sur le site de BPM. Faudrait voir, sinon je lui avais déjà parlé avec Hockey le magazine, mais sachez qu'on a une belle expertise à Montréal dans ces cas-là. Martin, c'est un plaisir de jaser d'arbitrage. On se reparle demain pour une autre chronique hockey.
Ouais, sans problème. On va surveiller qu'est-ce qui va se passer. On va surveiller le match Canada contre Canada.
Pas un bon vieux rouge contre blanc.
Eh oui, un bon vieux rouge contre blanc. Et par la suite, on regroupe les équipes en une seule formation. Donc, ça va être intéressant de surveiller Michael Hage. Et sinon, ben, il y a toujours l'actualité qui est à surveiller. On parlait du cas Samberg, là. Ça va être intéressant aussi à surveiller.
Oui, je me réfère à Elisabeth sur la messagerie qui disait « On a besoin d'une dose de hockey à chaque jour. » Alors, il y a toujours des sujets de hockey à parler ensemble. Merci, Martin, pour ton temps. Bonne journée aujourd'hui.
Oui, ça fait plaisir, Jasmine.